Le journal. En compagnie de Claire Viget.
Bonjour. Augmenter ou non les prix de vente à l'approche de Noël, c'est le dilemme auquel sont confrontés les chocolatiers neuchâtelois. Ils doivent composer avec une hausse de toutes les matières premières. Trois bénéficiaires de l'aide sociale à la Chaux-de-Fonds évanouis dans la nature, on l'apprend à la lecture d'une récente feuille officielle. Le préjudice se monte à 56 000 francs au total. Explication dans ce journal. Apprendre les mouvements de base et y aller progressivement, ce sont les conseils d'un préparateur physique. Il vise à éviter des blessures aux jeunes qui veulent faire des exercices de musculation. Et puis le plafond nuageux va s'abaisser au fil des heures. Les premières précipitations sont attendues dans le courant de l'après-midi. Elles s'intensifieront en fin de journée. La limite pluie-neige se situera vers 1000 mètres et le mercure lui oscillera entre 1 et 6 degrés. Le monde du chocolat est pris à la gorge. Alors que les fêtes approchent, les chocolatiers confiseurs neuchâtelois affrontent une situation difficile. Les prix des matières premières s'envolent et cela, Julien Hirt, oblige les professionnels à prendre des décisions difficiles.
Oui, pour saisir l'ampleur du phénomène, Claire, il suffit de se rappeler chaque étape de la fabrication du chocolat. En raison du dérèglement climatique, le prix du cacao augmente, le prix du sucre augmente, ceux des fruits secs, du lait en poudre, de la farine aussi. Plus étonnant, même le coût du carton, oui, celui qui emballe vos pralinés, n'arrête pas de grimper. On a même frôlé la pénurie dans ce domaine. Et naturellement, comme pour tout le reste de l'économie, la TVA augmente ainsi que le prix de l'électricité. Avec des situations qui peuvent parfois paraître absurdes, comme celle qu'a vécue Corinne Pochard, des chocolats à rêve et passion à Cernier, qui a vu le prix du kilo de sucre passer d'1,20 à 1,70 €, alors qu'en parallèle, les grands distributeurs profitent parfois de leur situation privilégiée pour proposer des actions à 90 centimes le kilo. Comment faire dans cette situation? La solution qu'a imaginée Jaco de chocolaterie à Noireg, c'est de couper les intermédiaires et de signer des contrats directement avec les producteurs sans qu'un grossiste se sucre au passage. Une solution qui permet à l'entreprise de conserver des prix stables. Le patron Daniel Knopfel avoue toutefois que cette solution n'est réalisable que parce que sa société a une certaine taille et qu'elle est exclusivement spécialisée dans le chocolat. Il refuse toutefois de sombrer dans le pessimisme au sujet de l'avenir de la branche.
Je ne suis pas dans le souci, non, parce que je pense que le chocolat est un produit résistant à la crise. Et donc, le métier de chocolat, qui est quand même un très ancien métier, a survécu plein de crises avant cette crise-là, va perdurer. Après, il y a certainement des changements dans le paysage des entreprises dans le chocolat. Et certes, il va avoir une spécialisation. Donc, la société qui est investie et qui se donne la peine de créer, d'innover, va avoir des bonnes chances pour survivre.
Faut-il adapter ou non les prix de vente? C'est la question que se posent tous les pros du chocolat en ce moment, avec des réponses contrastées. Jaco Haute Chocolaterie y échappe donc, avec son système zéro intermédiaire. Chez Vaudès Suchard à Neuchâtel, cette année, la hausse est modeste, de l'ordre de quelques pourcents. Les réserves permettent d'amortir une partie du choc. On ne peut pas augmenter tous les mois, nous répondons du côté de Chocolate La Peseux, qui réfléchit malgré tout à adapter ses prix à la hausse dès le début de l'année prochaine. Chez Rêve et Passion, c'est clair et net, il y aura augmentation des prix l'année prochaine. Pas le choix. La patronne Corinne Pochard estime même que c'est une question de survie.
Merci Julien Hirt, vous co-signez ce dossier avec Lydiane Guenat. À noter encore qu'on trouve une version enrichie de ce sujet sur notre site rtn.ch. Le service de l'action sociale refait parler de lui à la Chaux-de-Fonds. Dans une récente publication de la feuille officielle, on apprend que trois bénéficiaires de l'aide sociale se sont évanouis dans la nature. L'un d'entre eux a touché indûment près de 16 000 francs en cachant une activité professionnelle. C'était entre 2019 et 2022. Et un couple a perçu un peu plus de 40 000 francs frauduleusement en ne signalant pas qu'il ne résidait plus sur le territoire cantonal à partir d'octobre 2021. Les précisions de Vincent Costet.
C'est la première fois que le service de l'action sociale publie ce genre d'informations dans la feuille officielle. Le dicaster qui chapeaute le SCAS ne nous accorde pas d'interview de la chef de service Anouk Steiner, mais celle-ci nous répond par retour de courriel qu'habituellement, les bénéficiaires indélicats résident en Suisse et sont donc avisés par courrier. Dans les deux cas présents, les bénéficiaires n'ont pas d'adresse connue. Le SCAS n'avait donc pas d'autre choix que de publier les noms des bénéficiaires et les montants indûment perçus dans la feuille officielle pour être légalement en mesure d'être éventuellement remboursé un jour par les coupables. La chef de service précise qu'après la crise traversée dans les années 2010 par le SCAS, les contentieux sont désormais suivis de façon serrée et que les publications dans la feuille officielle doivent éviter, je cite, toute nouvelle situation frappée de prescription.
Quant à savoir si les cas d'abus sont fréquents, on retrouve Vincent Costet.
Non, selon Anouk Steiner, cela concerne 2 à 3% des dossiers, un pourcentage qui, toujours selon la chef de service, n'est pas plus élevé qu'ailleurs. Elle rappelle que les bénéficiaires de l'aide sociale ont des droits et des devoirs et que chaque mois, ces personnes reçoivent un document dans lequel elles ont l'obligation de mentionner tout changement pertinent dans leur situation personnelle.
Anouk Steiner qui précise encore que son service fonctionne désormais à satisfaction. On y revient dans notre journal du soir. La crise du SCAS avait été révélée en 2020. La semaine dernière, un cas d'abus a été jugé au Locle, cette fois-ci pour un montant de quelque 34 000 francs. Les rennes de Nez Rouge reprennent du service dans le canton de Neuchâtel à partir du 8 décembre. Après une année 2022 encore perturbée par le Covid, c'est un retour à la normale. Le besoin de bénévoles est donc encore plus grand. À 2 semaines du début de l'opération, le président de Nez Rouge, Alain Muller, de Nez Rouge Neuchâtel, Alain Muller, essaye de recruter des bénévoles, notamment grâce au bouche à oreille.
Bouche à oreille, pourquoi ? Parce que c'est une super bonne ambiance en général en bénévole. Quand il goûte à Nez Rouge, il a juste envie de revenir. Et on fait des rencontres incroyables. Il ne faut vraiment pas mettre cette image de gens alcoolisés qu'on ramène à la maison avec Nez Rouge. Avec les années qui ont passé le 0,5 à la conduite, l'alcool a largement diminué au niveau des gens qu'on ramène. Il en existe toujours, on s'entend bien. Mais on fait de très très belles rencontres avec les clients. On a peu de courses où les gens sont complètement faits. La plupart du temps, c'est de se dire « ben voilà, j'ai peut-être un verre de trop ». J'ai pas envie de prendre un risque avec mon permis de conduire, j'appelle Nez Rouge. Et on est beaucoup plus à ce geste-là, et donc on a un dialogue avec les clients qu'on ramène qui est hyper intéressant, et ça donne envie de continuer. On rencontre des gens dans nos équipes, et puis on rencontre des gens incroyables qu'on ramène à la maison. Donc on fait beaucoup de connaissances, on a un bénévole qui a trouvé du travail grâce à un responsable des ressources humaines qui l'a ramené à la maison. Donc c'est vrai qu'on a énormément envie de revenir à Nez Rouge, parce qu'on travaille dans une très très belle ambiance.
Alain Muller, président de Nez Rouge Neuchâtel, répondait aux questions de Gaëtan Procureur. Le nouvel horaire 2024 des CFF dessert mieux les destinations touristiques comme le Valais ou les Grisons. Il prévoit aussi des liaisons directes supplémentaires le week-end de Genève à Coire via Zurich et dans le sens inverse. Au chapitre phase pilote, on notera 2 trains Régio Express qui seront prolongés depuis et jusqu'à Berne, offrant une alternative de voyage entre la capitale fédérale et Paris avec changement à Frasnes. Cela concerne la période du 10 décembre au 7 juillet 2024, les samedis, dimanches et jour férié. Le nouvel horaire des CFF entre en fonction le 10 décembre. Le peuple devrait avoir le dernier mot sur le durcissement du droit du bail voulu par le Parlement. La SLOCA annonce avoir déjà récolté quelques 60 000 signatures pour chacun des référendums lancés. Elles seront formellement déposées, ces signatures, en janvier. Le Parlement avait avalisé en septembre 2 projets de révision du droit de bail. L'un cible les sous-locations abusives, l'autre simplifie les résiliations de bail pour besoins propres. La gauche et le Conseil fédéral étaient opposés. La dynamique du Parlement fédéral est en train de se mettre en place. La plupart des groupes parlementaires ont siégé en fin de semaine avec leurs nouveaux élus. Ils ont pris des décisions importantes, par exemple sur les collaborations au Conseil des États. Les précisions de notre correspondante parlementaire Marie Vieumier.
Les Verts libéraux font leur entrée au Conseil des États avec l'élection de Tiana Angelina Moser. La politicienne zurichoise et les Verts ont décidé de travailler ensemble lors de la prochaine législature. Ils ne peuvent pas former un véritable groupe vu qu'ils ne sont que 4 au lieu de 5, mais ils veulent collaborer de manière étroite. Comme les Verts et les Verts libéraux ont un groupe au Conseil national, ils peuvent siéger dans les commissions du Conseil des États, ce qui n'est pas le cas de l'élu du mouvement citoyen Jeune Voix, Mauro Poggia. Celui-ci voulait rejoindre le groupe du centre, même si ses collègues du MCG au Conseil national vont intégrer le groupe UDC. Son élan a d'abord été freiné par les services du Parlement qui ont indiqué que les élus d'un même parti devaient être membres d'un même groupe. Puis il a été bloqué par le centre lui-même qui estime que les positions des deux partis sont trop éloignées et que les signaux envoyés par les différents élus du MCG montrent, je cite le communiqué, « une attitude peu fiable ». Mauro Poggia se retrouve donc sans groupe et sans possibilité de siéger en commission.
Et des choix importants ont aussi été faits au sujet de la composition du Conseil fédéral. Le centre a notamment décidé de revendiquer un siège au gouvernement, mais pas dans l'immédiat, seulement lorsqu'un des ministres libéraux radicaux donnera sa démission. Et puis à l'international, la trêve entre Israël et le Hamas pourrait se prolonger. Un premier accord faisait état d'un cessez-le-feu de 4 jours qui arrive à échéance aujourd'hui. Il a jusqu'ici permis la libération de 39 otages en échange de 17 prisonniers palestiniens et de l'accès d'une aide d'urgence à la bande de Gaza. Le Hamas a fait part de sa volonté de prolonger cette trêve, une disposition de l'accord que permet une telle reconduction. Le chef de la diplomatie de l'Union européenne a lui aussi appelé à une prolongation du cessez-le-feu pour travailler à une solution politique du conflit.
RTN 12h25.
Sport. Soulever de la fonte en étant adolescent ou préadolescent, ça n'est pas sans risque. Il n'est pas rare de voir sur les réseaux sociaux des jeunes en salle de force ou dans leur chambre qui soulèvent des poids ou poussent ou tirent des charges. Les exercices de musculation pour des jeunes entre 10 et 16 ans peuvent provoquer des blessures comme des élongations ou des déchirures. Ils peuvent aussi conduire à des douleurs récurrentes du dos et des hanches selon Loris Insi. Le préparateur physique jurassien regrette que certains adolescents ou préadolescents pratiquent la musculation uniquement par souci d'apparence. Loris Insi promeut une approche progressive avec un encadrement professionnel.
Je pense que c'est surtout l'approche à moyen et long terme, dans la mesure où il faut créer, c'est comme une pyramide, on crée des bases et ensuite on peut complexifier, augmenter les charges, etc. Mais avant toute chose, c'est apprendre les mouvements. Et les mouvements, c'est des mouvements de base, c'est tirer, pousser, sauter, ce genre de mouvements qui sont au final des mouvements du quotidien qu'on développe en salle de force, mais qui doivent être maîtrisés auparavant. Le problème, c'est du moment qu'on gère sur l'ensemble du corps, on arrivera à trouver un équilibre, mais souvent le risque, c'est qu'on délaisse certaines parties ou certains muscles du corps au profit d'autres, et à long terme, voire même à court terme, en cas de mauvais mouvement, on crée juste des déséquilibres qui peuvent provoquer des blessures.
Le préparateur physique Loris Insi répondait à Michel Léoni. Deux boxeuses de la Chaux-de-Fonds se sont illustrées ce week-end lors des finales de la Light Contact Cup. À Vernier, Maëva Messerli a remporté le titre de championne suisse en catégorie fille moins de 17 ans d'1m60. L'athlète de 15 ans du boxing club La Chaux-de-Fonds a battu sa coéquipière Mathilde Cantonnet en finale. Votre prochain rendez-vous avec l'info, c'est à 13h. Bon après-midi à tous.